11h02 dans le Point de Max. Audrey Pinchot est en studio. Juste avant de faire le segment Open Mic, pas le choix d'aller dans l'actualité parce que les informations continuent de sortir au compte-gouttes par rapport au remaniement ministériel de François Legault. Et dans les dernières minutes, on a appris entre autres que Jean-François Roberge, parce que c'en est un qu'on savait pas trop ce qui se passait encore avec lui, finalement, c'en est un autre qui va rester exactement à la même place. Fait que ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. En gros, c'est un remaniement ministériel qu'il y a pas mal de monde qui reste exactement où il était. On pense à Christian Dubé à Santé, Éric Girard aux Finances, Mathieu Lacombe à Culture, Christine Fréchette, Économie et Énergie, Jean Boulay, ministre du Travail, Gilles Bélanger, Cybersécurité et Numérique, Lionel Carman aux Services sociaux. Dans les changements, je vous rappelle, Sonia Lebel à l'Éducation, Martine Biron à l'Enseignement supérieur, Jonathan Julien au Transport, ça en a surpris plus d'un ce matin, j'en fais partie, Yann Lafrenière à la Sécurité publique, Caroline Proulx aux Aînés, Geneviève Guilbeault aux Affaires municipales, Bernard Drainville à l'environnement. Et à la date, il y a juste deux nouveaux ministres. Fait que, tu sais, des députés qui n'étaient pas ministres pendant tout, là. Il y a Jean-François Simard qui, sans surprise, parce que ça avait circulé pas mal, qui devient responsable de la capitale nationale. Et il y a un certain Donald Martel qui devient ministre de l'Agriculture. On continue de suivre ça. Dès 14h, quand le tout deviendra officiel, je vous invite à être avec l'équipe de Gravel dans le retour qui, bien sûr, va vous tenir au courant. Audrey Pinchot, comment ça va?
Ça va bien! Ça va super bien, mais c'est un sujet un peu plus dark qu'on va aborder, évidemment, aujourd'hui ensemble. Je vous apprends absolument rien.
Mais en même temps, c'est le côté espoir qu'on veut aborder.
C'est un peu ça. C'est la Journée mondiale de la prévention du suicide. Puis c'est drôle parce que chaque fois que cette journée-là arrive, ou Belle Cause, ou n'importe quelle journée finalement où on souligne tout ce qui touche la santé mentale, j'ai toujours un peu le même questionnement depuis une couple d'années de est-ce qu'on en parle trop, parce que je pense qu'on n'en parle jamais assez. Est-ce qu'on en parle de la bonne façon? Est-ce qu'on fait toujours trop la même affaire? Je me demande toujours c'est quoi la façon de toucher les gens sans que ce soit redondant pour les gens qui ne se sentent pas concernés. Vous avez peut-être entendu le témoignage de Jeff ce matin. Sinon, je vous invite à aller le réécouter. Jeff a eu une passe assez rough dans sa vie. Puis je trouve ça beau de voir des gens, je vais dire de sa génération, on n'est pas dans le même, c'est la réalité, qui sont capables de prendre la parole par rapport à ça, d'assumer ce qu'ils ont vécu, de parler de leur cheminement.
De s'ouvrir,
je trouve ça hot. Puis vous le savez, à Boulevard, on en parle beaucoup de santé mentale. Dans le retour, nous autres, c'est un livre ouvert par rapport à la santé mentale. Fait que si vous avez des histoires, vous avez envie de partager ce matin, 88-971-1021, l'angle qu'on va prendre, c'est celui de la première ligne. Puis je m'explique, quand vous appelez des centres d'aide, par exemple le Centre de prévention du suicide de Québec, il y a des gens qui vous répondent. Bien, c'est qui ces gens-là? Sont-ils formés? C'est-tu n'importe qui? Y ont-tu les compétences? C'est quoi faire cette job-là? C'est de ça qu'on va parler.
L'Open Mic. Just in time for Open Mic. Dans Le Point de Max, c'est l'heure de l'Open Mic avec Audrey Pinchot.
First time I tried an open mic, I knew.
Quelques statistiques, c'est des chiffres qu'on n'aime pas entendre, mais avant d'accueillir notre invité, j'ai envie de vous les partager parce que je trouve que ça fesse puis on l'oublie. Un adolescent sur cinq qui a envisagé le suicide au cours des 12 derniers mois, 20 % de nos adolescents, ça me fait capoter. Le taux de mortalité par suicide qui est deux fois plus élevé que le taux de mortalité sur les routes. Imaginez, au quotidien, on entend parler d'accidents de voiture, là. Imaginez.
Quasiment chaque jour, on a des accidents mortels au Québec.
Oui. Un peu moins surprenant, 48 % des appels reçus qui proviennent d'hommes. On le sait que c'est une clientèle qui est très, très présente. Les gars qui vont avoir tendance souvent à attendre le fond du baril avant de réagir, contrairement peut-être à la gente féminine. Puis on généralise ici, là.
Bien, on généralise, mais c'est ça. Mais les chiffres parlent. C'est ça, pareil. Puis je pense que c'est pour ça, tu sais, tu disais qu'on en parle beaucoup à Boulevard, là. Généralement, on est une radio qui est plus écoutée par les gars, selon les statistiques. Puis c'est pour ça que c'est important pour nous d'en jaser, pour aller en jaser aux hommes, puis que ces hommes-là, qui sont peut-être dans des mauvais espaces ou qu'un jour vont être dans des mauvais espaces, se disent « Hey, ouais, on a beaucoup dialogué là-dessus. J'écoute Boulevard, il en parle beaucoup. Il y en a d'autres dans ma situation. Je peux faire comme les autres puis m'ouvrir. »
À Québec, environ 2 personnes s'enlèvent la vie chaque semaine. Puis chaque jour, au Québec, c'est près de 3 Québécois qui nous quittent. Fait que c'est complètement tragique. J'ai comme le goût, Max, de te poser une question super personnelle. Puis en fait, on n'a même pas parlé. Fait que je regarde la statistique sur les jeunes, les adolescents. Je veux dire, on est jeunes, toi puis moi. Là, on est dans les plus jeunes ici à la station. C'est-tu déjà quelque chose qui t'a passé par la tête?
Non, parce que j'aurais pas, puis c'est drôle à dire, là, puis je vais m'expliquer après, mais j'aurais pas le courage de m'enlever la vie. Je veux dire, si t'as le courage de dire, hey, moi je saute dans l'inconnu au point de m'enlever la vie, puis je suis désolé, mais t'as le courage de passer par-dessus n'importe quoi que tu peux être en train de vivre. Là. Oui. Moi c'est de même, je le vois. T'sais, quelqu'un qui ose s'enlever la vie avec ce qu'il y a ou ce qu'il y a pas l'autre bord, qui tu peux passer à travers, mon chum. T'as la force. Si t'as la force de faire ça, t'as la force de faire n'importe quoi. Mm. Puis pour cette raison-là, moi, ce serait inimaginable, peu importe ce qui arrive, de faire ça.
Je pense qu'on est chanceux parce qu'on est des gens qui sont très bien entourés. Puis en même temps, je dis ça, puis c'est un peu ironique parce qu'il y a des gens très bien entourés qui finissent par s'enlever la vie. Souvent, c'est ceux qu'on voit pas venir, en fait. Mais j'ai jamais considéré non plus. Il y en a eu des bouts de rough, là. Il y en a eu, là, comme
on,
tout le
on
monde.
En a
là, on a toutes. Mais de là à considérer ça, tu vois, moi, ça m'a jamais même effleuré l'esprit. Mm. J'ai des gens proches de moi, par exemple, qui sont passés par des bouts vraiment tannants. Puis je me retourne vers vous, les auditeurs, 88-971-1021 encore. Je sais pas si c'est ma curiosité malsaine, j'ai besoin de comprendre, mais je me demande qu'est-ce qui pousse à se rendre à ces pensées-là encore aujourd'hui. J'ai toujours eu de la misère, puis en même temps, je pense que ça fait partie du pourquoi on a cette entrevue-là ce matin aussi. Je pense que tu peux pas comprendre tant que tu t'es pas rendu au fond du baril. Mm-hmm. Puis je pense que c'est pas rationnel rendu là non plus, parce que moi, longtemps, personnellement, j'en ai voulu, mais voulu à des gens qui se sont enlevé la vie, mm-hmm, de près ou de loin dans mon entourage, parce que je trouvais ça lâche. Et je trouvais ça épouvantable. Je me disais, il y a tellement de ressources.
Ouais.
Il y a tellement d'aide disponible. Les gens sont là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? mais c'est ça, je pense que probablement que rendu à ce stade-là, tu vois plus rien autour de toi, probablement. Fait qu'on va parler de tout ça ce matin avec Éric Arsenault, qui est coordonnateur du secteur clinique au Centre de prévention du suicide de Québec depuis 25 ans. Énorme. Fait qu'il coordonne tout ce qui touche l'intervention, dont la première ligne, la stratégie numérique, l'intervention clinique, le post-vention qu'on appelle aussi, on pourra en parler. Avant tout, 25 ans, Éric. Bon matin, mais 25 ans, comment on reste sain mentalement?
Ben, c'est une bonne question, puis vous l'avez nommé, c'était un sujet dark en début.
Ben oui.
En même temps, la prévention du suicide, on parle plus de... On s'intéresse peut-être plus à la partie qui veut vivre la personne, ouais, et qui existe toujours, là. Ce qui fait qu'on est toujours tourné vers l'espoir. Donc, il y a quelque chose de très intéressant d'avoir accès à une vérité pure. Quand quelqu'un nous appelle, par exemple, ou quelqu'un vient nous rencontrer. La souffrance, puis en même temps, la souffrance a plusieurs visages, dans le fond. Je vous entendais parler de courage ou lâcheté. Mm-hmm. Souvent, ce qualificatif-là vient plus de la personne qui regarde, qui est extérieure à tout
ben
ça,
oui,
parce que la personne qui est prise dans ce processus suicidaire-là voit plus ça, a plus accès à ses forces et tout ça, d'où l'importance d'un centre de prévention du suicide pour aider les gens à prendre un pas de recul, récupérer ses forces. Puis effectivement, les forces sont toujours présentes, c'est juste que la personne ne voit plus.
Puis pour aller chercher de l'aide, je trouve ça important de le dire parce que comme tu l'as mentionné, quand t'es rendu, t'es là, t'es sur le bord, tu vois plus nécessairement clair, pour aller chercher de l'aide en lien avec le suicide, t'es pas obligé là, d'attendre d'être là, puis d'être prêt, puis tu passes à l'acte dans deux... Tu peux le faire avant.
Ça a beaucoup évolué au fil des 25 dernières années. J'ai envie de dire, le Centre de prévention du suicide est le premier centre de prévention du suicide au Canada. On va fêter bientôt nos 50 ans.
Aïe, aïe. Wow.
Donc, on a exporté à l'époque, j'étais pas là à ce moment-là, mais exporté le modèle californien, dans le fond, de la prévention du suicide. Mais ça a beaucoup évolué dans les dernières années et aussi la démystification de la demande d'aide. C'est pour ça qu'on voit encore un travail important à faire avec Je suis content de voir que c'est des 40 ans et plus. On parlait de la clientèle de Boulevard. Oui. Puis, encore une fois, je ne vous ai pas remercié de nous avoir invités parce que souvent, on est éclipsé la journée mondiale par d'autres activités. Hein. Oui. Le remaniement aujourd'hui va prendre beaucoup de place. En même temps, c'est important d'en parler parce que les hommes de 40 ans et plus, puis là, je me permets de le dire parce que j'ai 40 ans et plus. C'est plus difficile pour nous d'aller chercher de l'aide parce qu'on vit de la honte, etc. Oui. Donc, une ligne comme la nôtre permet un certain anonymat, permet aussi de parler avec quelqu'un qui est peut-être neutre. Parce que oui, effectivement, il y a des gens qui sont bien entourés, mais qui se sentent tout seuls au monde. Et des gens qui sont mal entourés et qui se sentent très bien tout seuls au monde.
On peut-tu juste appeler parce qu'on file pas sans avoir l'intention de s'enlever la vie? Je m'explique, là, j'ai lu un texto qui est entré. Pour te répondre, Audrey, moi, la meilleure comparaison, c'est de te parler de torture intérieure, un feeling qui te dévore de l'intérieur, pas capable de penser à autre chose que le malheur qui t'arrive. À un moment donné, tout ce que tu veux, c'est d'en finir parce que c'est trop. Te reposer de ces émotions-là qui sont super déchirantes puis qui sont trop présentes au quotidien. Je me dis, avant de te rendre là de brouiller du noir de bord en bord puis qu'il n'y en ait plus de lumière, je pourrais-tu, moi, appeler le Centre de prévention du suicide de Québec parce que je suis dans une passe vraiment rough puis j'ai peur d'où je pourrais me rendre?
Oui, puis comme je disais, ça a beaucoup évolué. À une certaine époque, je pense que les gens nous appelaient à la dernière minute.
Oui.
Maintenant, on a beaucoup démystifié la demande d'aide et là, les gens vont nous appeler à la moindre défaillance. Hein. On est un centre de prévention, donc « Hey, je vais pas bien ». J'ai pensé au suicide, j'ai eu un flash suicidaire. C'est-tu correct, pas correct? Donc, de ne pas rester seul avec ça. Je pense que c'est ça un peu la difficulté. Je pense que les gens qui vont commettre le geste du suicide, souvent, ils vont être isolés, ils vont être seuls au moment du passage à l'acte. Donc, quand je me sens isolé, ben c'est important de demander de l'aide à des proches. Mais le centre de prévention du suicide est ouvert 24 heures sur 24.
Souvent, les gens n'osent pas demander de l'aide aux proches parce qu'ils ont peur de ce jugement-là, probablement. Ça dépend des générations, mais il y a bien des familles où tu as été élevé puis c'est comme, bat-toi le derrière puis avance. Là, je veux dire...
Puis les gars, peut-être encore plus.
Peut-être encore plus, effectivement, ce qu'on dit souvent.
Ce qui est peut-être moins vrai dans notre jeune génération, ouais, où ils ont appris à exprimer leurs émotions, à dire que c'est correct de demander de l'aide. Vous avez parlé de certaines vedettes qui ont assumé leurs difficultés, puis assumé qu'ils sont allés chercher de l'aide, puis qui sont devenus des modèles intéressants. Oui, je pense que le travail de notre... Le pan-québécois, on travaille à l'importance de la demande d'aide. Je pense que ça va aller dans le bon sens de diminuer les taux de suicide. En même temps, il y a du travail à faire.
Bien, absolument. Puis je posais la question parce que je vais me prendre un exemple. Je vais me jeter en dessous d'autobus. Moi, je regarde un organisme comme le Centre de prévention du suicide de Québec. Puis si je file pas, mon premier réflexe, c'est pas de vous appeler simplement parce que je me dis « ben je suis pas rendu au suicide, fait que j'ai pas d'affaires dans cette clientèle-là ». Puis je pense que c'est important de dire que vous pouvez le faire parce qu'on est dans une société en ce moment où on manque de psy, on manque de TS. Je veux dire, c'est dur d'avoir accès à quelqu'un qui peut nous suivre en consultation. Fait que si ça peut juste être d'appeler à quelque part de même pour dire « hey, là, j'ai plus de repères, là. Je suis comme en crise existentielle. »
Se permettre, là, puis là, pour la personne, se permettre de prendre un pas de recul, de parler avec quelqu'un qui est neutre dans tout ça.
Qui
c'est un avantage.
Oui, absolument. 25 ans à la même place, premièrement, chapeau, là, je tiens à le dire. Là. T'as fait de la première ligne, évidemment, puis je voulais qu'on en parle un peu de ça, d'exposer les dessous de ce métier-là, de ce travail-là, je vais le dire. C'est quoi faire de la première ligne exactement? C'est vraiment ceux qui répondent carrément aux gens en détresse.
Oui, tout à fait. C'est les intervenants du Centre de prévention du suicide, ils savent à quelle heure ils rentrent, mais ils savent pas à quelle heure ils vont sortir. Et surtout, on ne sait pas... qu'est-ce qu'on va avoir comme contact? Hein? Puis les contacts sont très, très variés. Monsieur, madame, tout le monde peuvent nous appeler pour eux-mêmes, mais un proche pourrait nous appeler parce qu'il est inquiet pour son frère,
par
exemple.
On n'en parle pas assez de ça. Hein?
Oui. Donc, il y a comme une notion d'accueillir dans un premier temps les gens, de clarifier la situation. Je ne vous cacherai pas qu'on a des outils qui nous permettent d'estimer la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire, dans le fond, qui nous permet de voir si une personne est en danger pour elle-même ou pour autrui, dans le fond. Et avec sa collaboration, on va mettre en place un filet de sécurité, on va mettre en place une alternative, je veux dire à très, très court terme, parce qu'on n'a pas la prétention de sauver la vie des gens, puis on n'a pas la prétention non plus de régler les problèmes, mais de permettre à la personne de prendre un pas de recul.
De ne pas commettre l'irréparable.
De ne pas commettre l'irréparable. Hein? Tu le nommais un peu tantôt. « Hey, chummy, t'es capable de passer à travers ça. » Oui, mais quand je t'ai soufflé, c'est plus difficile. Mm-hmm. Donc, comment on peut aider la personne à reprendre son souffle? Et en intervention, en prévention du suicide, c'est rarement un contact. Mm. C'est une moyenne de 4-5 contacts par personne où on va faire des échanges, prendre des ententes. Oui, des fois, on va dire à la personne, ben, peut-être qu'on est rendu à aller faire un check-up avec le médecin, rappeler son psychologue.
Vous avez des clients, je vais appeler ça des clients, des patients, vous avez des gens récurrents, dans le fond. C'est pas une affaire d'une fois nécessairement.
Bien, comme je disais, habituellement, la prévention du suicide, c'est quelques contacts, dans le fond. Un premier contact qui peut être un proche qui nous appelle, qui est inquiet pour son frère ou sa sœur. Par la suite, on va vouloir avoir un contact avec cette personne-là. Et selon les situations, on va prendre des ententes à court, moyen, long terme. L'accompagnement ou le suivi est possible téléphonique.
C'est-tu la même personne qui fait le suivi? Puis tu dis un accompagnement, c'est quoi cette...
Comme on est un organisme 24 heures sur 24, les intervenants au centre de prévention du suicide, puis là, je dis comme ça, là, mais on est un intervenant. Donc, on a des outils pour se passer la rondelle d'un corps de travail à l'autre, mais aussi, parce qu'une personne, quand on l'invite à nous rappeler, on a à peu près 5000 clients différents par année.
Wow.
Chaque client différent, ils sont invités à nous rappeler si jamais ça ne va pas. Puis des fois, il y a des crises très, très situationnelles où un seul contact suffit. Et d'autres crises, ça va prendre plusieurs semaines, mois. Mais
si moi,
on
c'est
va inviter
Joseph
les gens
qui
à nous
me
appeler.
Répond, je peux-tu redemander à parler à Joseph si c'est rendu ma personne de confiance?
Malheureusement, c'est difficile parce qu'on est 24 heures sur 24 et Joseph, il ne travaille pas 24 heures
évidemment.
Sur 24.
Évidemment. Faites-vous du texto aussi ou juste du téléphone?
Oui, on fait en fait, deux choses. Le Centre de prévention du suicide offre le 1-866 appel. Dans le fond, on est mandataire. C'est une ligne qui est provinciale. On est mandataire pour la capitale nationale, donc Charlevoix, Portneuf et Québec. C'est seulement téléphonique. On offre un service qui est confidentiel, mais qui n'est pas anonyme. Et on assure un suivi téléphonique. Et les gens pourraient venir nous rencontrer aussi si on atteint la limite du téléphone. Mm. Pour ce qui est de suicide.ca, dans le fond, l'intervention par clavardage, chat, texto, il y a 3 centres de prévention du suicide au Québec qui sont mandataires. Québec, Montréal et Sorel. Et c'est un service qui est pan-québécois. Donc, on sort de la capitale nationale. Donc, quelqu'un qui clavarderait avec suicide.ca puis qui serait dans la région de Québec tombe pas nécessairement avec un intervenant de Québec. Et il y a une double confidentialité entre les services du centre et suicide.ca.
Oh, c'est bien, ça.
Parce que suicide.ca, c'est... On est moins dans une ligne d'urgence, dans le sens où on ne peut pas répondre à tous les gens qui clavardent avec nous. Les gens, s'ils se sentent en danger dans l'immédiat, ils sont invités à appeler le 1-866 ou ils sont invités à appeler les numéros d'urgence. Et c'est 100% anonyme. Ça va faire 5 ans, là, en octobre, qu'on a lancé suicide.ca et ça ne vient pas jouer sur le nombre d'appels entrants. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pense qu'on atteint, on rejoint une certaine clientèle qui ne veulent pas nous appeler, qui ne veulent pas aller au CLSC, qui ne veulent pas aller à l'hôpital, qui vont vouloir...
Qui ont de la misère à parler, probablement.
Qui ont de la difficulté à s'exprimer. Donc, ça va rejoindre une autre clientèle. Puis là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui clavardent puis qui nous appellent aussi, mais ça ne vient pas jouer. On n'a pas moins d'appels parce qu'il y a des gens qui peuvent clavarder.
Vous êtes combien en première ligne, hein?
Pour le 24-7, on est à une trentaine d'intervenants, là, dans le fond, qui gèrent les deux 24-7, j'ai envie de dire, parce que le chat texto, c'est pas les mêmes intervenants. Oui, c'est les mêmes intervenants, avec la même base de formation. On va ajouter une autre formation pour le clavardage, parce que le non-verbal à l'écrit, c'est différent. Mais j'ai des intervenants, qui on va les appeler des hybrides, qui vont être dans les deux services.
Puis justement, comment tu deviens l'interlocuteur en première ligne? Les formations, c'est quoi? J'imagine que ça prend des attitudes humaines particulières. Là, demain matin, je peux pas juste dire « Hey, allô, centre de prévention du suicide, moi, je viendrai prendre des appels. »
Oui. À une certaine époque, au tout début, le modèle était vraiment bénévole. C'était la notion du bon samaritain en Californie. Donc, il y avait une formation de base. Depuis 2006, on n'a plus de bénévoles au centre de prévention du suicide. Donc, les gens qui peuvent appliquer chez nous, c'est des gens qui ont à la base une formation de base en relations d'aide. Et là, ça me fait dire, habituellement, les gens qui vont en relations d'aide, ils ont déjà une cape qui a poussé dans leur dos. Ouais. C'est déjà des gens qui aident, qui ont une bonne écoute, une empathie peut-être plus développée que la moyenne des gens. Puis par la suite, nous, on va donner une formation, dans le fond, qui est les bonnes pratiques en prévention du suicide. Et à ça, tout dépendant du secteur au CPS où on travaille, on va ajouter une formation spécialisée par rapport au téléphonique et une autre formation pour le clavardage chat-texto.
Moi, mettons que je voudrais pouvoir faire le chat clavardage, je pourrais peut-être justement prendre une formation puis finir par travailler chez vous.
D'aller faire son bac, d'aller faire sa technique en relation d'aide. Exact. C'est des professionnels qui sont là. Puis des fois, on a des étudiants qui sont en fin de parcours aussi qu'on va embaucher.
Ah, c'est bien ça. Ouais. Pour les gens, mettons, qui se posent la question, parce que je me la suis souvent posée, là, c'est quoi le parcours à partir du moment où une personne en détresse vous appelle? Juste peut-être nous amener un peu dans votre quotidien les questions qui sont posées. Je sais que vous avez justement des chartes, des outils, comme tu disais. Juste savoir par quoi on passe quand on appelle au Centre de prévention du suicide de Québec.
Bien, dans un premier temps, c'est l'accueil inconditionnel. Hein. Je pense que c'est la partie la plus importante quand une personne nous appelle. Cette personne-là vit au Québec, donc elle a dans sa tête aussi que c'est courageux, c'est lâche, le suicide.
Ouais.
Donc, il y a comme quelque chose où c'est même difficile pour eux d'appeler parce qu'ils se sentent lâches ou ils se sentent pas assez courageux. Donc, on va les accueillir, puis rapidement, on va s'intéresser à leurs préoccupations. Et au Centre de prévention du suicide, on n'est pas des traumatologues. Donc, on va essayer de voir la personne ou aider la personne à se voir plus grande que son problème.
Mm.
Donc, de l'accueillir dans comment elle le fait pour pas faire de tentative de suicide, comment elle le fait pour réussir à se garder en vie en ce moment. Puis oui, on va poser la question, est-ce que le fait d'avoir vivre une rupture amoureuse en ce moment vous amène à penser au suicide? Et si c'est une réponse positive, bien, on va creuser un petit peu plus dans le sens où on va vouloir voir, ça prend quelle forme les idées suicidaires? Est-ce que la personne est rendue à planifier son suicide? Est-ce qu'elle est rendue à avoir un échéancier, une date de suicide? Par la suite, hein, on a d'autres critères importants, la consommation, par exemple, qui peut venir jouer sur le contrôle, le niveau de contrôle. On parlait, qu'est-ce qui fait qu'au Québec, la prévention du suicide est si un enjeu important? Bien, l'héritage du suicide aussi. Hein, le fait d'avoir fait une tentative de suicide dans ma vie bien, me rend plus à risque de mourir par suicide dans les mois suivants une première tentative de suicide, par exemple. Donc, on va s'intéresser à l'historique de la personne. Le fait d'être endeuillé par suicide, là, attention, hein, je ne dis pas que les endeuillés par suicide sont plus... vont suicider, mais ils sont plus vulnérables au suicide parce que des fois, le suicide de l'un donne le droit de se suicider. Mmh. Hein, mon grand-père s'est enlevé la vie parce qu'il vivait une difficulté. Pourquoi moi, je pourrais pas
le faire? C'est une porte qui s'ouvre tout d'un
coup. C'est une porte qui s'ouvre. Hein? Le suicide existe parce que le mot suicide existe. Hein? Depuis que le monde est monde, on entend parler du suicide. Donc, comment on peut remplacer ce suicide-là par d'autres outils? Permettre à la personne à prendre du recul et l'intervention dans l'écoute empathique des intervenants, quand on s'intéresse à la partie qui veut mourir d'une personne, bizarrement, la partie qui veut vivre s'exprime aussi. Mmh. Donc, avec nos oreilles bioniques, on va, avec une douce insistance, relever ces choses-là. Quand tu me dis qu'il n'y a personne dans ton entourage, c'est qui ces personnes-là?
Mm-hmm.
Donc, pour essayer d'identifier des gens avec qui ils seraient plus à l'aise d'en parler...
Y a-t-il des gens qui sont vraiment seuls qui vous appellent?
Oui, mais
qui n'ont pas de repère du tout?
Oui, il y a des. Ben, en fait, c'est vraiment un continuum important. Puis en même temps, il y a des gens qui sont seuls qui ne nous appelleront jamais parce qu'ils sont tellement débrouillards. Puis on a des gens qui sont extrêmement bien entourés, mais qui se sentent seuls au monde.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que c'est très, très varié. Puis encore une fois, le travail des intervenants va être de s'intéresser à la personne, mais pas juste dans l'instant présent. On va essayer de devancer le passé ou l'espoir. On parlait de l'espoir tantôt. Souvent, en prévention du suicide, on va dire que l'adresse postale de l'espoir, c'est dans le futur. Hein? Souvent, une personne ne remet pas en question son passé. J'ai vécu telle ou telle chose. remet pas en question son présent. Hein. Je vis une rupture amoureuse, une perte d'emploi. Souvent, dans la prévention du suicide, ce qui est remis en question, c'est le futur. Qu'est-ce qui vaut encore la peine pour que je me rende à demain ou dans 3 ans et tout ça?
Là, on parle de la démarche pour quelqu'un qui est suicidaire ou qui pourrait le devenir. Mais je trouve ça super important qu'on aborde aussi les proches qui peuvent appeler si on s'inquiète pour quelqu'un. Là, la démarche, évidemment, est complètement différente. Est-ce que c'est d'aller chercher le plus d'informations possible à partir de ce proche-là qui appelle?
En fait, je vais le dire comme ça, là, c'est la même intervention. Quand un proche nous appelle, il a tenté plein de choses. Il est lui-même en crise. Peut-être pas en crise suicidaire, mais on va s'intéresser à lui. Qu'est-ce qui fait que vous appelez au centre de prévention du suicide? Ah, je pense pas que mon frère va se suicider, là, mais... Oui, mais vous appelez au centre de prévention du suicide. Qu'est-ce qui vous inquiète? Donc, on va partir du proche pour voir un peu c'est quoi sa perception de l'événement. On va l'outiller parfois à poser les bonnes questions et surtout à bien accueillir la réponse. Souvent, c'est ça l'enjeu, hein, de demander à son frère « Est-ce que tu penses au suicide? » Je ne veux pas entendre la réponse. Ouais. Donc, on va travailler comment accueillir la réponse. Puis là, la personne qui est en crise suicidaire, ce qu'elle nous dit, c'est « Je dois changer quelque chose. » Donc, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de tout ça. Donc, on va accompagner le proche. On va lui dire « Vous faites partie de notre équipe. Voici le plan de match. On vous demande d'aller poser telle ou telle question. » Ou dites à votre proche « Écoute, j'ai appelé au centre de prévention du suicide parce que moi, je ne savais pas quoi faire. »
Appelez-vous le proche.
Avec la situation. Dans quel sens?
Ben, moi, maintenant, j'appelle parce que je m'inquiète pour Max. Je vous donne le numéro de Max. Appelez-vous Max?
Ah, oui, c'est un service qui peut être offert, la relance téléphonique qu'on va parler.
Ça doit être surprenant, recevoir un appel du centre de prévention.
Ben, probablement. Je pense que ça parle encore plus de nous. Ça fait 25 ans, moi, que je fais des relances téléphoniques et j'ai envie de dire, il y a peut-être 1% que ça a été frappé un mur. Parce que habituellement, les gens sont agréablement surpris que quelqu'un qui s'inquiétait suffisamment.
Ah, c'est bon à savoir, ça peut enlever une peur. Appeler.
Oui, tout à fait. Puis le fait de parler de suicide, c'est thérapeutique. J'ai peur de parler. Puis quand je parle à quelqu'un, puis je lui dis, hey, le fait de vivre une rupture amoureuse, est-ce que ça t'amène à penser au suicide? Souvent, l'effet chez la personne, c'est bon, enfin, quelqu'un se rend compte que je suis plus capable d'avancer. Donc, puis dans l'accueil inconditionnel, on diminue les effets de honte, les effets de peur de parler de sa détresse.
Oui. Est-ce qu'il y a des cas qui dépassent vos compétences? Vous faites quoi dans ce temps-là?
Bien, en prévention du suicide, une des bonnes pratiques, c'est de ne jamais travailler seul. Hein? C'est pour ça que je disais, quand un proche nous appelle, on lui dit « Vous faites partie de l'équipe ». Quand une personne suicidaire nous appelle, on lui dit « Tu fais partie de l'équipe ». Et on va voir un peu dans la situation de la personne, qui d'autre on ramène dans l'équipe. Est-ce qu'on va chercher un professionnel de la santé, un médecin par exemple, des fois dans le réseau, là, on parle des hommes, hein, parce que votre clientèle, c'est les hommes, puis je suis à l'aise de parler de la demande d'aide des hommes. Qui dans votre équipe, ça fait longtemps qu'il est sur le banc de touche? Hein, parce qu'il est arrivé un événement, puis vous l'avez mis en pénalité, mais que Caroline qui serait aidant en ce moment. Y a-t-il des gens dans votre entourage qu'on devrait rappeler? Et s'ils savaient ce que vous vivez en ce moment, comment ils pourraient bien vous aider? Donc, on va élargir. Puis encore une fois, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Puis parfois, en prévention du suicide, la résolution de problèmes ne fonctionne pas. Hein, le meilleur exemple, c'est un endeuillé par suicide qui nous appelle. Si j'appliquais bêtement la résolution de problème, je dois ramener à la vie la personne qui est décédée. C'est humainement impossible. Puis souvent, pour les intervenants, c'est difficile d'intervenir auprès des endeuillés parce qu'on sent une impuissance importante. Donc, au centre de prévention du suicide, la personne qui est endeuillée, qui nous appelle, on va les accompagner dans les émotions contradictoires qu'ils vont vivre.
Oui.
Et, encore une fois, les aider à revoir leurs forces.
Comment vous évitez de ramener ça à la maison, personnellement, là? Les intervenants, les gens qui sont en première ligne? T'sais, en passant, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle avec Éric Arsenault, qui est coordonnateur du secteur clinique là, du Centre de prévention du suicide de Québec. 25 ans! C'est énorme, 25 ans, là, c'est plus vieux que Max.
Oui, oui, oui.
Comment vous faites pour ne pas ramener ça à la maison? Puis je blaguais pas quand je disais rester sain mentalement. C'est,
oui.
Il va y avoir des journées particulièrement difficiles.
On a un humour particulier au Centre de prévention du suicide. On a un travail d'équipe important. Tous les intervenants sont rattachés à un superviseur. Parce qu'en prévention du suicide, j'ai beau avoir l'ordinateur de l'année, un crayon qui écrit bien. Mon principal outil d'intervention, c'est moi-même. Donc, ils sont rattachés à un superviseur. C'est un travail d'équipe aussi. Donc, pendant les interventions, on va travailler en équipe. Et comme on le disait tantôt, c'est pas toujours Éric qui répond au téléphone. Donc, je vais passer la rondelle au changement de corps pour dire « Monique va nous appeler tantôt. Oui. Voici ce que j'ai fait avec elle. Voici ce qu'elle devrait avoir fait. Puis, on va repartir de là. » Donc, on va travailler en équipe. Donc, quand je repars, je fais confiance à mon équipe. C'est ce qui nous permet, je pense, de perdurer.
Les gens restent-tu longtemps?
C'est relatif. Hein? Je pense qu'on a des intervenants qui viennent, sont de passage, ils terminent leurs études, ils vont aller, viennent se chercher une expertise en prévention de suicide, puis ils vont trouver un autre emploi ailleurs. J'ai des intervenants qui vont fêter 17, 25 ans prochainement aussi. Donc, il y a des vieux intervenants, mais qui ont l'air jeunes. Je pense que c'est relatif. Ce qui est intéressant aussi au Centre de prévention du suicide, mais je peux toucher à d'autres secteurs aussi. Il y a le téléphonique, oui. Mais j'ai un secteur clinique où je vais rencontrer des individus. Et là, ça va être toujours la même personne que je vais rencontrer. Et secteur de la stratégie numérique aussi, devenir superviseur. Donc, il y a comme une structure, dans le fond, qu'on a réussi à faire dans les dernières années qui permettent de ne pas rester seul avec ça.
En tout cas, je tiens à dire, Éric, parce que ça sort sur les textos, là, que si c'est des gens comme toi qui répondent au téléphone, ta voix, ton calme, c'est franchement apaisant. C'est plate, mais on va parler un peu de chiffres. Ça ressemble à quoi la situation à Québec, dans la capitale nationale en ce moment, quand on parle de gens en détresse qui décident de passer à l'acte?
Bien, je pense que positivement, il y a plus de gens qui nous appellent. À une certaine époque, on avait moins d'appels. Maintenant, on en a plus. Hein, on est plus connus grâce à des radios comme la vôtre. Les gens qui nous appellent, je pense qu'ils nous appellent au début de la crise, ce qui était très, très différent quand j'ai commencé en prévention du suicide. Bon, il y a quand même un enjeu capital national dans beaucoup de professions libérales. Hein, il y a eu dans les dernières années où... un sondage que les gens disaient « Si jamais je perds l'usage de mes jambes, je vais me suicider parce que ma vie est finie. » Donc, il y a comme quelque chose où on a de la difficulté à demander de l'aide. C'est pour ça un peu qu'on vient vous voir pour que vous puissiez parler de nous. Deux suicides hein, par semaine, c'est beaucoup trop.
C'est énorme.
Au Québec, c'est... Puis le taux de suicide, encore une fois, je vais avoir un discours positif. Le taux de suicide diminue. Depuis 1999, où on a eu la pire année provinciale, les gens demandent de l'aide plus tôt. Et il y a d'autres sources aussi. Hein. On fait de la formation sentinelle. Dans le fond, les sentinelles, c'est en milieu de travail, un peu comme la RCR, sauf que c'est des gens qui ont un bottin de ressources, qui sont capables de poser les bonnes questions. Oh. Et je peux aller voir mon collègue en disant « Je vis une rupture en ce moment, je ne vais pas très bien. » Et là, cette personne-là, sentinelle, va poser les bonnes questions par rapport au suicide.
Éric, je t'arrête deux petites secondes. Tu parles beaucoup de rupture depuis qu'on a commencé à se parler. Non, mais sérieusement...
Je vise les gars, là.
Oui, mais autant les gars que les filles, tu parles beaucoup de rupture, puis j'en viens à me demander, c'est une des raisons principales, souvent, pour lesquelles les gens tombent dans un trou noir?
Je pense que c'est des fois le déclencheur qu'on voit le plus. Le suicide, c'est vraiment un multifactoriel. Là. Il y a beaucoup de facteurs qui amènent une personne à décéder par suicide. Des fois, la rupture amoureuse est souvent la pointe de l'iceberg, dans le fond. Hein. Je vis plein de difficultés, ça joue sur mon couple, et la rupture devient comme un peu un déclencheur, mais... il y avait un terreau fertile au suicide. Puis effectivement, je pense que des fois, les hommes ont de la difficulté à demander de l'aide quand ils vivent cette rupture amoureuse.
Avant de rappeler aux auditeurs les façons de vous contacter, est-ce que des gens qui écoutent présentement qui se disent « Moi, je veux aider cette cause-là de la prévention du suicide », c'est quoi les façons?
Bien, sur notre site Internet, dans le fond, la Fondation ramasse des dons aussi. Hein. Comme je vous disais, on est financé pour le 866 appel, dans le fond, téléphonique 24-7, mais on a plein d'autres projets également là, qui permettent de faire de la prévention du suicide. Donc, les gens peuvent donner généreusement. En ce moment, la cage au sport, la cage brasserie sportive, dans le fond, ramasse des fonds pour nous. Donc, du 1er septembre au 14 septembre, ils vendent de la pizza. Donc, quand vous allez encourager vos équipes sportives, ben, prenez de la pizza. Puis, il y a des sous qui sont rattachés au centre de prévention du suicide. On n'a pas... En fait... Je pense qu'il y a plein de façons de s'impliquer en prévention du suicide. Donc, venez visiter notre site Internet.
Éric Arsenault, je veux te remercier d'être passé. C'est jamais des journées qui sont le fun. C'est jamais des sujets qui sont faciles non plus à aborder. Puis d'avoir des intervenants qui sont prêts à faire le pas puis qui sont prêts à venir se mouiller puis faire le tour du sujet avec nous. Je tiens à te remercier. Puis en passant, il y a des textos qui entrent pour vous remercier. Vous avez été d'une grande aide. Honnêtement, je vous lis les auditeurs. J'ai le cœur qui brise en huit. Là, je me rends compte à quel point on sait pas puis on réalise pas autour de nous à quel
point...
On en
parle pas assez.
Ah, à quel point il y a des gens qui... Puis j'ai envie de vous dire, je vais le prendre de l'autre sens. Oui, si vous n'allez pas bien, demandez de l'aide, mais je pense que c'est plus difficile de demander de l'aide quand tu ne vas pas bien que de prendre des nouvelles quand tu vas bien. Pensez donc à quelqu'un aujourd'hui de qui vous n'avez pas pris des nouvelles depuis super longtemps. Je ne vous demande pas de faire une thèse psychologique. Là. Hey, salut, ça va? Je prends de tes nouvelles.
Mais la nuance, hein? Posez la question différemment ou quand vous dites à quelqu'un « Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? » Prenez le temps d'écouter la réponse.
Ouais.
Hein? Parce qu'une personne nous dirait « Non, je vais mal. J'aurais pas entendu parce que je m'attends à avoir un « Oui, tout va bien. »
Ben oui.
Hein?
Oui,
donc, prenez le temps d'écouter la réponse.
Donc, Éric Arsenault, coordonnateur du secteur clinique au Centre de prévention du suicide de Québec. Il y a le 1-866 appelle, évidemment, votre numéro qui est sur Google. Et il y a le 988 aussi maintenant, ligne d'aide en cas de crise de suicide. Je pense qu'on est en soi plus que le centre de prévention du suicide.
Peut-être un petit bémol avec le 988.
Oui,
c'est la ligne pan-canadienne.
Oui.
Et au Québec, c'est transféré au 1-866 appelle. Et il y a un gros enjeu technologique avec le 988. Donc,
c'est bon
le 1-866 appel est peut-être plus pertinent au Québec.
Gardons ça alors, 1-866 appel. Merci énormément d'avoir pris le temps. Puis on va prendre le temps d'aller vous lire beaucoup de témoignages qui rentrent par texto.
Merci Eric, merci Audrey. Au retour, Pascal CV s'en vient dans le Point de Max. Il est 11h38.
Le Point de Max.